Bonjour à chacun. Je suis content d'être ici parmi vous. Donc, comme ça a été annoncé, on avait eu à cœur de pouvoir traiter des thèmes éthiques qui touchent à la vie. Et Josué, il y a quelques semaines, vous a donné un message sur tout ce qui touche aux enjeux du début de la vie. Et pour ma part, je vais traiter la question de la fin de la vie, mais sachant que, waouh, comment on peut faire en une demi-heure, hein. Voilà, ce sera seulement quelques petits éléments pour réfléchir, pour rappeler les fondements aussi de la parole de Dieu sur la question de la vie. Et c'est vrai que cette question de la fin de la vie, ça nous touche tous, hein. Si ce n'est pas maintenant, par des parents âgés ou autres, ce sera demain. Ce sera à la fin de vie, je ne sais pas, notre conjoint, nos parents, j'espère jamais de nos enfants. Mais je ne maîtrise pas ça. Hein. Et donc, c'est vraiment une question qui fait peur aussi un peu, très nettement. Même si on a l'espérance en Jésus-Christ, ça c'est après la mort physique, mais la période qui précède la mort physique, waouh, c'est pas très aguichant, hein. On est d'accord hein, là-dessus. Vous savez qu'il y a une affaire qui est en cours depuis des années et des années, qui est l'affaire... Est-ce que c'est une affaire d'ailleurs? C'est une personne qui s'appelle Vincent Lambert. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Il a eu un accident de la route en 2008. Ça fait 11 ans. Hein. Il avait 32 ans. Et puis, bien évidemment, il a été réanimé à l'extrême de tout ce que la médecine, la technologie peut faire. Qu'est-ce qu'on aurait dit si on n'avait pas insisté, hein? On aurait porté plainte contre les secouristes, peut-être, contre les urgentistes. J'en sais rien. Toujours est-il qu'il a été in extremis réanimé. Dans un pauvre état, c'est vrai. Et aujourd'hui, il est stabilisé. Simplement, il est ce qu'on appelle possi-relationnel ou végétatif. C'est-à-dire, en gros, le contact avec cet homme est réduit à un archi-minimum. Et c'est la guerre entre les parties de sa famille, vous savez. Entre ceux qui disent, il faut arrêter de le nourrir, il faut arrêter de l'hydrater. Il a une vie indigne. Insupportable. Mettons-nous à la place de son épouse, ses parents. Et puis l'autre partie de la famille dit non, pas du tout. Il est très sévèrement handicapé, bien sûr physiquement totalement, et très, très profondément aussi mentalement, mais on ne va pas arrêter de le nourrir. Il est pas malade au sens strict. Il ne subit pas un traitement. Il est simplement très profondément handicapé. On voit tout de suite que c'est des problèmes nouveaux qui sont apparus avec aussi les progrès de la réanimation. Toutes ces personnes seraient dans des accidents, mortes sur le terrain, dans la carcasse de leur véhicule. Hein. Il n'y aurait pas eu de possibilité. Hein. La réanimation, c'est les années 50, hein, ça a commencé. C'est pas vieux, hein. Moi je suis de 62, enfin bon, on dirait que c'est une mauvaise référence. Mais c'est pas si vieux que ça. Hein. Et donc effectivement, on arrive à des problèmes incroyables à gérer au niveau éthique. On fait quoi ? On fait quoi ? En plus, aujourd'hui, en 2019, mais les chiffres sont de 2016, on meurt énormément à l'hôpital. Donc ça veut dire qu'il y a des possibilités de reculer, de différer le décès par des traitements ou même un maintien en vie. On peut le faire techniquement. Dans les années 50, puisque je ne sais pas pourquoi j'en parle tellement, il y avait seulement 20% des personnes qui décédaient à l'hôpital. Aujourd'hui, 60%. Ça a vraiment changé, hein, la manière dont on quitte cette terre. C'est très, très différent aujourd'hui. Alors, je voudrais ce matin avec vous rappeler quand même un petit peu ce que dit la loi de notre pays. Parce qu'on discute avec les gens. Savons-nous exactement quelle est la législation de notre pays ? Vous allez me dire, mais ce n'est pas un sermon ce que vous nous faites là, pas au sens strict sur cette partie-là, mais c'est important de savoir ce qu'on vit dans notre pays, parce qu'on va avoir des réflexions à partir aussi de notre loi. On peut être amené aussi à se mobiliser pour pas qu'il y ait trop de changements de certaines lois, pour qu'elles ne soient pas trop contraires à la parole de Dieu. Donc sachons ce qui se passe et ce qui est possible aujourd'hui en France, sachant que ce qui est possible en France est différent en Suisse, aux Pays-Bas ou dans les autres pays. On est ici en France, et donc permettez-moi de rappeler simplement le cadre de la loi française, ne serait-ce que pour notre information et notre capacité aussi à dialoguer et à réfléchir aux choses. Première chose, Qu'est-ce qui est légal? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est légal? Étant entendu que ce qui est légal dans un pays, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne faut pas y réfléchir. Ce n'est pas parce que c'est légal que c'est juste, forcément. On a tous en tête un certain nombre de lois. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont contraires à la volonté de Dieu. Mais c'est légal dans notre pays de France. En tout cas, qu'est-ce qui est légal en termes de fin de vie? C'est illégal, pardon, je suis en train de... Oui. Merci, je voyais des yeux qui s'écarquillaient. Non, non. Qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce qui est illégal? C'est vrai que c'est mes lunettes, je ne vois pas net le fond. Voilà, maintenant c'est bon, je vois bien. Qu'est-ce qui est interdit? C'est ce qu'on appelle l'euthanasie active. L'euthanasie, c'est quoi? C'est un nom un peu bizarre qui vient du grec, qui signifie littéralement une bonne mort. Bonne mort, ouais, bon. On préfère la bonne vie, hein. Et donc l'euthanasie, en fait, c'est un acte de faire mourir quelqu'un. Et il y a une décision derrière, c'est le choix, l'intention de faire mourir quelqu'un au motif que ses souffrances sont intolérables. Moi, je me pose toujours la question, intolérable pour qui? Pour le malade, la personne en fin de vie, ou pour l'entourage? Mais officiellement, ce serait pour la personne en fin de vie que ce serait intolérable. Mais qu'est-ce que ça veut dire, intolérable? Ça commence où? Ça finit où? Là, ce qui est interdit en France, c'est l'euthanasie active. L'euthanasie active, c'est véritablement déclencher la mort, hein, en administrant une substance, n'est-ce pas, qui va produire la mort. C'est envoyer une piqûre, quelque chose, un produit qui va stopper la vie, comme on fait, comme un vétérinaire fait quand vous lui amenez un animal complètement malade, quoi. C'est on décide d'injecter une substance. Aux Pays-Bas, vous avez à peu près presque 5% des décès par euthanasie active. Donc, injection d'une substance, y compris d'ailleurs pour des démences, ce qui pose la question du consentement. Que vaut la parole de quelqu'un de dément quand il dit je veux mourir? Ou je veux pas mourir, mais les autres voudraient. Il y a même eu quelques cas d'enfants de plus de 12 ans. On tremble à cette idée-là. Les deux tiers des Néerlandais sont favorables d'ailleurs à la mise à disposition d'une pilule de fin de vie pour les personnes qui pourraient se procurer ça si elles voulaient se suicider. En tout cas, ça c'est illégal en France. On n'a pas le droit officiellement d'injecter une substance pour terminer la vie de quelqu'un. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas, hein. Moi je ne suis pas dans les officines, hein. J'en sais rien. Mais c'est illégal au sens strict. Et d'ailleurs, chaque médecin se positionne par rapport au serment d'Hippocrate, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, ou aussi un code de déontologie médicale qui dit que c'est interdit de provoquer délibérément la mort du malade. C'est quasiment dans le cahier des charges de tout médecin. Donc vous voyez qu'il y a quand même une tension entre l'euthanasie active et le fait d'être médecin. Le but d'un médecin, ce n'est pas d'envoyer quelqu'un de l'autre côté. Mais il y a des vrais problèmes, il y a beaucoup de souffrance derrière, c'est jamais très simple. Ce n'est pas non plus la même chose que l'euthanasie passive. Hein. Active, c'est on fait quelque chose. Passive, c'est on arrête des choses. L'euthanasie passive, c'est on déclenche la mort, donc on décide de déclencher la mort, mais en arrêtant les traitements, en débranchant les appareils, et aussi en coupant l'hydratation, donc il n'y a plus d'eau qui rentre dans le corps, donc voilà, ça veut dire que peut-être on meurt de soif, plus ou moins, dans ces cas-là, et on arrête d'alimenter. Donc c'est tout ça, c'est un peu plus flou, l'euthanasie passive. En tout cas, ce qui est interdit très clairement, donc c'est l'euthanasie active, j'administre une substance pour intentionnellement produire la mort, et le suicide assisté, il n'est pas permis dans notre pays. La définition du suicide assisté, c'est que le malade se suicide lui-même, enfin c'est un pléonasme, hein, mais c'est pour dire qu'il est l'acteur, soit de l'injection de sa substance, etc. Il décide de le faire, mais c'est encadré par des tiers. En Suisse, c'est filmé et on envoie la bande au procureur pour bien démontrer qu'on ne l'a pas manipulé, qu'on ne l'a pas tué. On lui dit, t'es bien d'accord, tu sais ce qui va se passer, c'est clair. Tu vas mourir après t'être injecté la substance, et puis hop, on filme, et légalement, on est couvert en Suisse. Mais en France, c'est interdit. On n'a pas le droit d'assister au suicide quelqu'un. C'est comme ça. L'euthanasie active, j'y reviens un instant, c'est quelque chose qui a été en vigueur dans pas mal de cultures antiques, par exemple. Platon, dans sa vision du monde, intégrait tout à fait l'euthanasie dans sa société idéale. Que du bonheur. On euthanasie les vieux et les faibles, et comme ça, la société vit mieux. On pense aussi au Troisième Reich, les nazis, tous les gens jugés indésirables, les tziganes, les homosexuels, je ne parle même pas des juifs, je ne parle même pas de la belle mort, là, non plus. On les a éliminés à cause de théories raciales abominables. Donc, c'est vraiment quelque chose de chrétien, une pensée chrétienne, que d'être révolté par l'idée de euthanasier quelqu'un exprès, volontairement, intentionnellement. Alors ça, c'est ce qui est interdit, on l'a dit. Envoyer une substance, assister au suicide, c'est interdit dans notre pays. Bon, il y a beaucoup de gens qui aimeraient que ça avance là-dessus. Si tant est que le verbe « avancer » est correctement choisi. Je pense même qu'il y a une majorité de Français. Bon, bref, ça dépend un peu comment on pose les questions dans les statistiques et les sondages. Bref, aujourd'hui, c'est interdit. Maintenant, il y a aussi des choses qui sont permises par la loi, encadrées par la loi. La première chose qui est possible en France, c'est ce qu'on appelle le laisser mourir. Ce n'est pas pareil que d'administrer la mort. Laisser mourir, c'est la loi Leonetti 2005. C'est un cadre qui est posé aux médecins, en accord avec le patient et les proches, qui permet d'arrêter un traitement très lourd, ne pas s'acharner. On voit qu'il n'y a plus de vraie possibilité de thérapeutique, donc on décide qu'on arrête de mettre en œuvre encore ceci et encore cela. Et on a à peu près 20 000 cas par an en France, officiellement, d'arrêt de traitement qui sont décidés en concertation avec la famille et le malade. C'est quelque chose d'assez courant. On arrête, quoi. À un moment donné, il faut quand même voir les choses en face. Ce n'est pas un échec non plus. Hein, parfois, les médecins ont tendance à penser que c'est un échec quand quelqu'un meurt. Mais en fait, on est en train de mourir, quoi. C'est comme ça. Hein. C'est une conséquence du péché. Ça fait partie de la réalité de la nature humaine, de la condition humaine. Donc, en France, on peut éviter l'acharnement thérapeutique. On peut laisser mourir. Et on décide de le faire, bien sûr, c'est réfléchi, c'est pensé. Et on devrait même utiliser les soins palliatifs. Les soins palliatifs, qu'est-ce que c'est ? C'est des soins actifs, tu fais quelque chose. Tu administres peut-être des médicaments, alors ce n'est pas pour tuer, mais c'est pour soulager. Ça, c'est les soins palliatifs. Soulager les douleurs physiques, soulager les symptômes, et prendre en compte aussi toute la dimension de la personne en l'accompagnant psychologiquement, voire spirituellement. Ça, c'est tout à fait possible en France. Donc, le laisser mourir et aussi l'utilisation des soins palliatifs. Je vous dis tout de suite, il y a un problème avec les soins palliatifs, c'est qu'il n'y en a pas assez. On pense qu'à peu près 40% des personnes qui auraient droit, en quelque sorte, ou qui souhaiteraient les soins palliatifs, ne peuvent juste pas en avoir. En tout cas, dans des unités de soins palliatifs explicites. Donc, c'est quelque chose, je pense, d'un point de vue chrétien, on ne peut qu'être pour développer ça, soulager la douleur. Je ne sais pas, la douleur spirituellement ou humainement, ce que ça peut apporter. Je veux dire, quand on a mal, qu'est-ce qu'on fait de bon, hein ? Ne serait-ce que quand tu as une belle rage de dents, je ne sais pas ce que tu fais avec ta journée, quoi. Donc, tu n'es pas plus spirituel quand tu as un abcès sous une dent, hein. Donc, soulager la douleur, oui, bien sûr. Injecter la mort, non. Ça, en tant que chrétien, on ne peut pas. D'ailleurs, toute la question des soins palliatifs est vraiment d'origine chrétienne, très clairement. Je cite Dr Claire Fourcade de l'unité de soins palliatifs de Narbonne. J'ai trouvé ça sur le net. Elle a dit, en 20 ans d'exercice, seulement 2 patients m'ont dit clairement qu'ils voulaient être euthanasiés. 2. On aurait pensé 200. C'est quand même une unité où les gens, ils viennent, ils n'en ressortent pas. Et elle a cette belle phrase aussi. Les personnes qui demandent à en finir sont dans un tel état de fragilité que la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Quand tu souffres aujourd'hui, tu peux avoir envie d'en finir et demain penser une autre chose. Donc il y a une très belle démarche dans les soins palliatifs, d'accompagnement global de la personne et de soulagement de ses douleurs. Et ça, c'est légal. C'est même à encourager au maximum. Il y a une autre loi qui est en 2016, qui est la possibilité, la loi Claeys-Leonetti, d'une sédation profonde et continue. Sédation, ça veut dire qu'on va t'endormir. Ou en tout cas, te mettre dans un état où tu ne sentiras rien. Sédation profonde et continue. Ça, c'est possible en France. C'est plonger, en fait, le patient dans le coma, on va dire, à cause de médicaments. Et ça va être jusqu'à sa mort. On pourrait dire, la sédation profonde et continue, c'est endormir jusqu'à la mort. Alors, la frontière avec l'euthanasie passive, elle est floue. Hein. Si je mets un peu plus de sédatif, je raccourcis. Si j'en mets un peu moins, voilà. Donc, on n'est pas dans des définitions tout à fait carrées. Et en même temps, donc, on endort jusqu'à la mort, on arrête les traitements. C'est ça, la sédation profonde et continue. Éventuellement même, l'hydratation, donc l'eau, et la nourriture, l'alimentation, la nutrition. On est dans des catégories un peu floues. Hein. Et on ne sait pas toujours ce qui se passe non plus. On n'a pas accès à tout, hein, en tant que famille, en tant que, bien sûr, que malade ou personne en fin de vie. Et il y a aussi cette question importante de ce qu'on appelle les directives anticipées. Alors là, je crois que ça peut nous intéresser comme chrétiens. Si vous trouvez ça sur le net, c'est un formulaire type, hein, où vous remplissez, vous positionnez par rapport, on n'arrive pas à lire, c'est pas grave, mais l'idée c'est vous positionnez par un certain nombre de choses, par rapport à la réanimation, par rapport à la sédation. Vous prenez position, vous l'écrivez et vous donnez ça à vos proches. Comme ça, on sait ce que vous voulez. Alors après, il reste comme chrétien à réfléchir, qu'est-ce qu'on veut qui peut plaire au Seigneur. Mais moi, je nous encourage à anticiper les choses. Parce que je regrette avoir un accident ou un AVC. Ça peut nous arriver. Hein. C'est arrivé à d'autres. Ça peut m'arriver. Ça peut t'arriver. Donc le mieux, c'est d'anticiper. Éventuellement, pour pas que certaines choses légales puissent être appliquées sur ma vie si je n'ai pas la paix par rapport à elles. Donc c'est une belle occasion aussi, devant le Seigneur et avec nos proches, d'avoir un vrai partage sur nous. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. On est concerné. Les directives anticipées. Maintenant, je voudrais vous parler de, ou en tout cas réfléchir, sur qu'est-ce que c'est qu'une bonne mort. Après tout, euthanasie, ça veut dire bonne mort. Ouais, bonne question. C'est quoi une bonne mort? C'est quand on n'en parle pas, c'est ça? Non, réellement. Alors là, il y a une grande différence entre tout ce qui est la vision classique européenne jusqu'au Moyen-Âge et tout ce qui est la pensée moderne. C'est pour ça que j'ai mis deux colonnes. On ne voit pas du tout la mort de la même manière, globalement, dans la société aujourd'hui, qu'au 15e siècle, hein, ou avant. Qu'est-ce que c'était qu'une bonne mort, autrefois? Quelle était la peur numéro un, autrefois, en Europe, par rapport à la mort? C'était quoi? Alors, ça, c'était la peur de tomber malade, mais on va dire, au moment de la mort, quelle était la peur numéro un? L'enfer! L'enfer! L'enfer. Mourir, de toute façon, c'était banal. Hein, à l'époque de Jésus, vous connaissez l'espérance de vie moyenne? Ouais, 25 ans. Donc ça veut dire que... Bon, il y en avait qui avaient 70 ans, hein, quand même, quelques-uns, mais ça veut dire qu'avant, c'était une hécatombe, spécialement les 0 à 5 ans, les tout-petits, ils étaient... Donc la mort, elle était omniprésente. Il y avait tout le temps des deuils, tout le temps des enterrements. Hein. Aujourd'hui, on ne sait plus du tout ce que c'est. Mais des décès d'enfants et de bébés, c'était carrément le quotidien. On n'arrive pas à se... Enfin, ça montre tout le progrès médical qu'il y a eu, et on ne va pas s'en plaindre. Hein. Bref, à l'époque, la peur numéro un, c'était de souffrir en enfer. Il fallait absolument répondre à cette peur-là. Aujourd'hui, autant dire que c'est pas une peur qui tétanise les gens. Hein. J'aimerais bien savoir combien de Français croient qu'il y a une possibilité de l'enfer de l'autre côté. Ça doit pas beaucoup, hein. Vraiment pas. Donc comment répondre à cette peur ? Eh bien, se préparer spirituellement à la mort. Ça, c'était la réponse classique, on va dire, jusqu'au Moyen-Âge. Se préparer. C'est aussi la pensée biblique, hein. Qu'est-ce qu'il fait Jacob quand il voit qu'il est en fin de vie ? Il réunit ses fils et il les bénit. Il prépare son départ. Ésaïe a aussi dit à Ézéchias, qui était un roi, « Donne des ordres à ta maison, parce que tu vas mourir. » Donc prépare-toi, spirituellement et matériellement, aussi familialement. En fait, du point de vue d'autrefois, la mort rapide, loin de la maison, c'était quelque chose, les gens avaient peur de ça. Ils voulaient avoir le temps de se préparer, hein. Le temps de se confesser aussi. Le temps de recevoir du secours spirituel. Et il y avait un personnage clé dans cette période de toute fin de vie, c'était qui à l'époque ? Le prêtre. Et il y avait dans ce petit livret des exercices. Tous les mois, tu prenais un temps pour te préparer à la mort. Aujourd'hui, on se dit, ils sont fous. C'était important d'anticiper et de se préparer à la mort jusqu'au Moyen-Âge, hein. Peut-être même après le Moyen-Âge, jusqu'à ce qu'il y ait les lumières, l'humanisme, toutes ces choses-là. C'est très important de se préparer. Je crois qu'il y a quelque chose à entendre, là. Se préparer. Être prêt. Le prêtre, c'était même lui qui annonçait au malade qu'il allait mourir. Qui le confessait, qui l'absolvait. Alors, je n'ai pas dit que c'est ce que doit faire un pasteur. Je peux absoudre personne. Moi, je n'ai pas le pouvoir d'enlever vos péchés. Hein. Il n'y a que le Seigneur qui donne le pardon. Mais c'était là l'intermédiaire, en quelque sorte, qui accompagnait de la part du Seigneur la personne dans l'éternité. Et aujourd'hui, maintenant, en Occident, en France, quelle est la peur numéro un ? Souffrir avant. Souffrir maintenant, non, c'est intolérable. À l'époque, il n'y avait pas de solution pour ne pas souffrir, hein, physiquement. Aujourd'hui, on en a, et c'est la hantise qu'on peut avoir. On ne veut pas souffrir sur Terre. On veut une mort, si possible, rapide, dans le sens où elle ne va pas traîner longtemps. On n'y arrive pas forcément. Sans souffrir, et pourquoi pas une mort qu'on choisit, qu'on décide. Il y a des personnes, ça, qui mettent en scène leur adieu, ils se font filmer. Voilà, je prends congé de vous, j'ai décidé maintenant d'en finir. Et puis ils vont en Suisse ou quelque chose comme ça, s'ils peuvent se faire assister au suicide. Donc, voilà, il y a une série de rêves de contrôler ce temps de la mort, qui a une volonté toute puissance, bien sûr, aussi. Hein. Autant on voulait contrôler le début de la vie, hein, c'était le message de Josué. Autant l'homme veut aussi contrôler, bien sûr, sa vie, et ensuite contrôler la fin de la vie terrestre. Et bien sûr, le personnage clé aujourd'hui de cette période de la vie, c'est le médecin. Le prêtre, pas trop envie de le voir, le pasteur pas forcément. Le médecin, à partir du 19e siècle, devient le personnage central de la fin de la vie. Avec aussi la peur un peu qui va nous mentir, qui va nous enfumer un peu, qui va nous cacher notre état. C'est pour ça aussi que, comme on ne lui fait pas confiance à 100%, il faut qu'il y ait des lois. Soit il va minimiser mon état, il ne va pas dire la vérité, ou il va m'injecter dans mon dos un truc. Donc, on a besoin qu'il y ait une loi. Des directives anticipées, pour dire que ce n'est pas le médecin qui va avoir forcément le dernier mot. Et la personne de confiance aussi. Vous voyez, donc quand même, le médecin, on est content qu'il soit là, mais en même temps, on n'a pas une confiance absolue, il faut encadrer. Donc voilà, j'ai pris tout ce temps pour rappeler ce qui est permis dans la loi française, ce qui est interdit, et nous faire prendre conscience que la façon dont on considère la mort, ce n'est pas du tout la même aujourd'hui que ça n'a été. Et ça pose la question, quelle est la juste interrogation, la juste approche de notre mort ou de la mort telle que Dieu voudrait qu'on l'ait. Donc maintenant, on va enfin rappeler quelques repères bibliques. Et c'est là que j'ai embauché Paul avec son micro, qui nous lira quelques passages bibliques pour que ce ne soit pas que moi qui parle. Et ce qu'il lira, ce sera le texte biblique. Et moi, je serai là pour commenter. Donc, quels sont les repères bibliques sur ces questions éthiques? Il y a des choses que Dieu nous dit, que nous pouvons savoir, des convictions que nous pouvons ancrer. Alors, la Bible ne répond pas à ces questions de suicide assisté ou d'euthanasie, ça n'existe pas. Le suicide assisté, peut-être un peu, mais pas avec des substances chimiques. Les problèmes modernes auxquels on est confronté, vous ne les trouvez pas dans l'histoire de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, parce que ça a tellement changé. Alors, comment nous diriger, mais quand même aussi à partir des Écritures? Parce que Jésus dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Nous pouvons avoir des lumières et la sagesse d'en haut pour pouvoir guider notre vie, marcher dans la foi, et adopter la pensée de Dieu sur ces questions. Donc c'est possible. Ce n'est pas parce que l'Écriture ne répond pas explicitement à des problèmes modernes qu'elle ne répond pas à des problèmes généraux dans lesquels les problèmes modernes s'inscrivent. Première chose que la parole de Dieu nous dit très clairement, c'est que nous tirons notre dignité de Dieu. Donc si tu veux bien nous lire Genèse 1, 27 et 28 au début.
Dieu.
D'accord. Donc, on le sait très certainement, mais c'est encore mieux de le répéter. On a été créé pour représenter Dieu sur cette terre, pour être son vis-à-vis, hein, et ça c'est unique dans la création, et on est dans une filiation spirituelle. Et ça c'est absolument unique, nous ne sommes pas des animaux. Donc on a une immense dignité, et cette dignité ne dépend pas de la santé. Ça c'est très important. Ça ne dépend pas. Même en état végétatif, je pense à ce monsieur Vincent Lambert, même dans son état, il est un humain qui porte l'image de Dieu. Même dans son état dit végétatif. Aucun humain ne sera jamais un végétal. C'est pour ça que je n'aime pas cette expression état végétatif. J'ai l'impression que c'est un végétal. L'identité qu'on a reçue à la création, elle demeure. Ça, c'est important, très important, capital. Nous portons l'image de Dieu. Dieu créa, tu nous as lu, Paul, les hommes pour qu'ils soient son image. Il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Et le psaume 8, que tu vas nous lire maintenant, si tu veux bien, Paul, nous dit que nous sommes à la fois petits et grands. Qui on est en fait. Et pourtant, voilà comment est construit ce qu'on a entendu. On est peu de choses. On aurait l'impression que Dieu n'aurait même pas besoin de s'intéresser à nous, tellement on est des milliards et des milliards. On est quoi? Une fourmi? Non, pas du tout. On a beau être des milliards et des milliards, on a été fait de peu inférieur à Dieu et on est chacun couronné d'honneur et de gloire en tant que les créatures de Dieu. Donc ça, c'est vraiment un fondement très clair. Chaque humain tire sa dignité de Dieu. Donc, ce n'est pas le chat qui est malade et que je fais piquer chez le vétérinaire. Ça n'a rien à voir. On est des humains. On porte l'image de Dieu. On ne fait pas n'importe quoi avec les corps et avec les personnes. Deuxième point très important, c'est bien sûr, ça découle de ce qu'on a dit, c'est bien Dieu qui nous a créés et c'est lui qui est roi et qui maîtrise la vie. Il est créateur et il est souverain. Et donc, Paul va nous lire Deutéronome 32-39.
Reconnaissez-le donc, c'est moi seul qui suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. C'est moi qui fais mourir, et moi seul qui fais vivre. C'est moi qui ai blessé, c'est moi qui guérirai, et de ma main, nul ne peut guérir.
C'est Dieu qui est au-dessus de nos vies. On a parfois l'impression qu'on agit, qu'on maîtrise. On ne maîtrise pas grand-chose en fait. C'est moi seul qui suis Dieu. La vie, c'est vraiment un miracle. La science ne peut pas la produire. Tu ne peux pas produire la vie dans un labo. Et quelqu'un qui a perdu la vie, tu ne peux pas la lui rendre. Parce que c'est Dieu qui est Dieu. C'est important ça. Tout attendre de la science, vouloir tout contrôler du début jusqu'à la fin, c'est une forme d'idolâtrie et de volonté de toute puissance. Nous sommes des humains. Humain, c'est de la même racine que l'humus, la terre. Voilà, on a été fait de poussière d'ailleurs, mais on a reçu le souffle de Dieu. Laissons Dieu comme le seul créateur et le seul maître de tout. Troisième chose importante, c'est que la Bible nous parle de la mort. Elle nous dit que d'abord, c'est une conséquence du péché. La mort est une conséquence du péché. C'est même une triple mort qui serait conséquence du péché. La mort physique, hein. La mort spirituelle de celui qui n'a pas le Seigneur, et la mort éternelle à venir pour ceux qui, définitivement, n'ont pas le Seigneur. Donc la mort est une terrible, la plus terrible peut-être conséquence du péché. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu, hein, bien sûr, et qu'il est ressuscité. On va lire, souvenez-vous, dans Genèse 2, Dieu avait dit à Adam et Ève, « Tu peux manger des fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon et mauvais. Le jour où tu en mangeras, littéralement en hébreu, mourir, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, mourir, tu mourras. » Et donc, ils l'ont fait, et le résultat, Genèse 3, Paul. Hélas, conséquence funeste. Et on sait qu'un peu plus loin, eh bien, Adam et Ève vont être chassés du jardin et n'auront plus accès à l'arbre de vie. Et c'est qu'en Jésus-Christ qu'il y a de nouveau possibilité de recevoir la vie, parce qu'il dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et notre condition humaine actuelle, nous le savons bien, elle est marquée aussi par la douleur. Il n'y a pas que ça, mais elle est marquée par la douleur aussi. 2 Corinthiens 5, si tu veux nous lire, c'est un petit peu plus long, Paul. Merci. Alors effectivement, Paul voit juste, il dit, pendant qu'on habite une tente, hein, vous savez, une tente, le camping, je ne sais pas quoi, c'est un peu fragile, hein, au fil des saisons, hein, ça se déchire, c'est fragile, notre corps aussi, nous gémissons comme sous une charge trop lourde. Pas tout le temps, forcément, pas tout le temps dans toute la vie, mais à certains moments, ça peut arriver. Ça fait partie de cette condition humaine déchue. On est là pour essayer de soulager, bien sûr, ceux qui traversent ça, mais de fait, c'est comme ça. Il arrive et il arrivera, ou il est arrivé, que nous gémissons sur cette terre sous une charge, comme sous une charge trop lourde. Mais comme enfants de Dieu, nous avons reçu l'Esprit Saint. Et on aimerait être déjà tout de suite auprès du Seigneur, déjà ressuscité. Hein. Mais le Seigneur n'a pas décidé de nous rappeler maintenant. C'est là notre lieu pour l'instant. Nous servons, nous l'aimons, nous le louons ici. Nous sommes pleins de courage par ce Saint-Esprit et on s'encourage mutuellement. Et ce qu'on veut, c'est lui plaire. Soit en restant ici, le temps que ce sera notre parcours, et le jour où il nous appelle, ben on y va. Hein. Enfin, c'est comme ça que je le pense, en tout cas. Mais, clairement, la mort et même la souffrance de marcher sur cette terre en gémissant comme sous une charge trop lourde, ça fait partie de la condition humaine. On n'a pas le choix. Mais on a la présence du Seigneur, on a l'Esprit, et on a le courage et l'espérance, et on peut s'y préparer. Et un jour, la mort, le dernier ennemi, n'aura plus aucun pouvoir sur nous. déjà, elle est vaincue par le Christ ressuscité, comme ça, potentiellement, nous avons déjà la vie nouvelle en nous, mais notre corps se détériore, j'espère pas de jour en jour, mais quand même un peu. Hein. Mais l'esprit est vivifié à l'intérieur de nous. Et un jour, on entrera dans l'éternité. Et un jour, au son de la trompette, on ressuscitera, il n'y aura plus de deuil, de larmes, de cris. Et enfin, la justice habitera. Et le dernier ennemi sera totalement vaincu. Que nous dit la parole aussi, très clairement, elle nous interdit le meurtre intentionnel des autres ou de soi-même. Le suicide, c'est un meurtre intentionnel de soi-même. Alors, il y a des exceptions dans l'Ancien Testament, la guerre défensive, la légitime défense ou la peine de mort, on va discuter là-dessus, mais grosso modo, c'est interdit d'assassiner, très clairement, ou de s'assassiner soi-même par le suicide. Ce n'est pas quelque chose qui est dans le plan de Dieu. Alors, il y a des exemples de suicidés hein, dans l'Écriture, mauvais, hein, il y a Saül, c'est un suicide d'honneur. Je trouve que ça se contredit un peu, les deux mots. Et Judas aussi, souvenez-vous, c'est un suicide de désespoir. Mais ça manifeste quand même un rejet de Dieu et c'est une agression pour tous les autres, quelqu'un qui se suicide. Ça crée un véritable traumatisme pour ceux qui restent. Et je sais de quoi je parle. Parce qu'un de mes neveux s'est suicidé l'an dernier. C'est un séisme pour tous. Hein. 23 ans, quoi. La parole de Dieu nous montre aussi que des personnes peuvent souffrir au point de demander la mort. Ça, c'est dans l'Écriture. Je trouve ça intéressant. Enfin, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, l'Écriture nous montre des personnes découragées au point de vouloir mourir. On pense bien sûr à Job, qui est au comble de la souffrance. Vous relisez une fois ce livre. Il demande plusieurs fois la mort, en particulier ce que Paul va nous rappeler dans Job 6 et Job 7. Il est en train de demander à Dieu, allez, écrase-moi, quoi, finis-en avec moi. Hein. C'est incroyable, bon, c'est pathétique, hein, cette prière-là. Et Job 7.
Ah, si tu m'étranglais, j'aimerais mieux cela. Je préfère mourir plutôt que d'être réduit à l'état de squelette. Je n'en peux plus. Je ne vivrai pas toujours. Ma vie tient.
On entend ça, hein. La prière pathétique d'un homme qui, à l'instant T, qui dure beaucoup d'ailleurs à l'époque, est vraiment au fond du trou. Et quelle est la réponse à cette prière de Dieu? Est-ce qu'il a écrabouillé, il a coupé le fil comme il avait été demandé? Non. Au bout du chemin de cette souffrance, parce qu'il y a un bout du chemin, il lui donne une nouvelle révélation de lui-même. Et une guérison et un rétablissement. Donc c'était un temps de un passage désespéré chez Job. Et aujourd'hui, s'il disait ça dans un hôpital, qu'est-ce qu'on ferait? Il y en a qui seraient tentés de dire « T'inquiète pas, tout va bien se passer pour toi. » Comme quoi, ce qu'on pense aujourd'hui dans la souffrance, on peut très bien penser très différemment demain. On a aussi Élie qui a eu une profonde dépression, 1 Roi 19, Paul. Il va très très mal aussi à ce moment-là, très très mal. Il demande la mort. Il prie Dieu et dit, donne-moi la mort. Hein. Prends mon âme, reprends-moi. Et comment est-ce que Dieu a répondu à cette prière? Est-ce qu'il l'a euthanasié? Pas du tout. Oui, c'est ça. Il lui donne sa présence, de la nourriture, tout à fait matérielle, et il lui rappelle sa valeur. Mais oui, c'est bien. C'est exactement ça. C'est très incarné comme réponse. Hein. Il donne de la nourriture. Et il le nourrit. Et évidemment, Élie sort de sa dépression. Mais il voulait mourir. Hein. Et il en a parlé à Dieu. Et Dieu entend ses prières. Il peut les accueillir. Il ne va pas répondre forcément formellement, mais il va répondre quelque chose venant de son cœur. Dernier exemple, Jonas. Alors lui, il veut mourir, mais parce qu'il est en colère. pas tout à fait pareil que le désespoir. Il est désespéré de colère, en fait. Et qu'est-ce qu'il dit, Jonas 4, 3, Paul ? Elle y est pas ? Non, je vais lire, c'est juste une phrase. Il dit « Laisse-moi mourir, car je préfère la mort à la vie. » Et deuxième fois, « Je préfère la mort à la vie. » Quelle est la réponse de Dieu ? « Tu préfères la mort à la vie ? Ben, on va te la donner. » Non. Il fait pousser un ricin à côté de lui pour qu'il ait de l'ombre. « T'as chauffé, mon gars, un peu. Waouh, relax. » Et puis, il lui montre qu'il a un cœur plein d'amertume et il essaye de réveiller en lui la miséricorde pour les perdus. Voilà, tout simplement. Comme ça, la colère est tombée et la volonté d'en finir avec elle. Donc, merci Seigneur d'avoir permis dans l'Écriture d'avoir ces prières-là. Parce que je ne sais pas si un jour, je ne serai pas tenté moi-même, dans la souffrance, peut-être le désespoir, d'avoir une parole comme ça. Et merci Seigneur parce que tu ne me répondras pas littéralement à ma demande. Mais tu réponds au fond du problème, qui est souvent l'angoisse. L'angoisse. Et aujourd'hui, combien on peut être tenaillé par l'angoisse, hein, surtout à un certain âge. Comment vont vivre mes proches s'il m'arrive quelque chose? Je vais devenir une charge si je vieillis? Qui va payer? Là, c'est des bonnes questions quand même, non? Qui va prendre soin de moi quand je ne pourrai plus rester seul? Est-ce que je vais être abandonné à ma solitude? Est-ce que je vais être exclu? Jusqu'où est-ce que ça va se dégrader, cette carcasse? C'est des vraies questions angoissantes, ça. Vraiment angoissantes, si on y pense. Et d'ailleurs, on a constaté que 98% des personnes qui voulaient mourir, quand on a répondu à leur souffrance physique et qu'on les a écoutées, c'est encore mieux si on leur a rappelé les promesses de Dieu. Eh bien, la demande de mourir, elle s'arrête. Parce qu'en fait, une personne qui demande à être euthanasiée, elle ne demande pas à mourir en fait. Elle demande qu'on arrête ses souffrances. C'est comme quelqu'un qui se suicide. Je pense à mon pauvre neveu. En fait, il ne voulait pas mourir en fait, il voulait arrêter de souffrir. Mais voilà, il n'a trouvé personne sans doute à ce moment-là. Je me sens un peu coupable, je n'ai pas vu, je n'ai pas senti, je n'ai pas vu venir. Mais il n'est plus là. Donc derrière ces demandes de mourir, il y a de l'angoisse et il y a une demande d'accompagnement et de soulagement. Et le seul remède vraiment à la peur, à l'angoisse et à la mort, nous on le sait bien, c'est Jésus-Christ, c'est la relation avec lui, c'est la foi. Il ne nous promet pas que notre vie elle sera tranquille, paisible, pas forcément. Mais il nous promet, je suis avec vous tous les jours, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et je te donne ma paix, je te laisse ma paix, pas comme le monde donne. Et enfin, je termine là-dessus, j'ai sans doute déjà été trop long. Nous, les vivants, là, qui allons plutôt bien, on est responsables d'accompagner, de faire du bien à ceux qui souffrent et qui passent par des temps difficiles et peut-être la phase de la fin de leur vie. Toi et moi, on est le prochain de celui qui est en faiblesse aujourd'hui et qui a besoin de nous, qui a besoin de toi et de moi. La fin de vie, il ne faut pas laisser ça aux médecins. Ils font leur job, heureusement qu'ils sont là. Mais on a notre part à faire dans le soutien spirituel. Je pense à la parabole du bon samaritain, Luc 10. Hein. Vous vous souvenez de cette histoire, Jésus demande... Un gars qui demandait « C'est qui mon prochain ? C'est qui mon prochain ?» Il voulait surtout qu'on lui dise « T'inquiète pas, il y a des gens qui ne sont pas ton prochain, tu as besoin de t'en occuper. » Et Jésus lui a dit le contraire, il a dit « À ton avis, lequel des trois s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands ?» Réponse bah, « C'est celui qui a eu pitié de lui, » répondit le scribe. Réponse de Jésus « Eh bien, va et agis de même. » Seigneur me dit, te dit, va et agis de même. À ton niveau, tu peux prendre soin d'une personne qui souffre aujourd'hui. Dans ta famille, dans l'église. Seigneur, garde-nous que nos églises soient des endroits où on est bien que si on est riche, jeune et en bonne santé, quoi. Et que si on est vieux et qu'on ne peut plus vraiment apporter beaucoup en termes de productivité, on est juste oublié, ça serait calamiteux. Hein? Soyons conscients que celui qui a eu pitié de lui, c'est lui le prochain. Enfin, voilà, va et agis de même. On n'aura pas réponse à tout, ni pour les autres, ni pour nous-mêmes, mais on va continuer à vivre, c'est le mot de la fin, en puisant notre force dans la parole de Dieu, parce qu'au jour du malheur, je vais avoir besoin de cette force. Donc le réservoir, c'est chaque jour qu'on le remplit. Puiser ma force dans les promesses, la parole de Dieu, pour garder l'espérance. Puiser ma force dans la sagesse du Saint-Esprit. Ça veut aussi dire que je peux m'engager à certains moments. S'il y a des projets de loi dans les tuyaux pour permettre l'assassinat légalisé de quelqu'un, je pense qu'à ce moment-là, il faut qu'on monte au créneau. Il y a peut-être des pétitions à signer ou des choses comme ça. On ne peut pas comme ça violer les lois créationnelles de Dieu sans que les chrétiens disent rien. Nous-mêmes, on va devoir aussi, dans la sagesse du Saint-Esprit, dire non à la tentation de penser euthanasie pour nous ou pour les autres. C'est un travail à faire parce que tous les médias veulent nous entraîner ailleurs, hein. Pensons soins palliatifs. Il va falloir aussi, par la sagesse du Saint-Esprit, lutter peut-être parfois contre les pensées de suicide. Je ne peux pas garantir que j'en aurai jamais ou que tu n'en auras jamais. Puisque même des hommes de Dieu très solides ont connu cela. Donc ça veut aussi dire nous préparer, et là ils avaient raison au Moyen-Âge, préparer à souffrir. Pas très vendeur comme thème. Mais c'est la parole de Dieu qui le dit. 1 Pierre 4, puisque Christ a souffert dans son corps, écoutez ça, armez-vous aussi de la même pensée, c'est-à-dire de souffrir dans notre corps. Ça arrivera. Armez-vous, c'est-à-dire que tu es plus fort si tu t'es préparé. Celui qui a souffert dans son corps, a rompu avec le péché. Et enfin, puisons nos forces tous les jours dans l'amour du Christ. Dans l'amour du Christ. Qui est ce souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses en ce moment même et intercède pour nous à la droite du Père. Cet amour du Christ nous donnera la force aussi de nous engager pratiquement à accompagner ceux de notre entourage qui doivent passer par la vallée de l'ombre de la mort. Voilà. Que le Seigneur vous remplisse de sa parole, la sagesse du Saint-Esprit et de l'amour du Christ qui est en quatre dimensions, longueur, largeur, hauteur, profondeur. Je n'arrive même pas à expliquer ça, la 4D de l'amour de Dieu. Merci pour votre attention.